Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue. Ici Serge Hamelin et Roger Roy.
Ici Serge Hamelin, je regrette.
Ouais.
Ici Serge Hamelin.
Ben,
et Roger Roy.
Alors nous nous disons bonjour.
Mais bonjour.
Bonjour, Serge. Et nous saluons aussi Jean-Sébastien La Liberté.
Ben oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, il y a quelqu'un qui l'accompagne ce matin. C'est un nommé Rémi. Rémi Hermoso.
Ah.
Oui, c'est ça.
Alors,
ils seront deux en régie. Nous serons deux.
Nous serons bien régirés.
Et nous allons vous parler de magazines sous la rubrique Culture et Société.
Oui.
Nous avons feuilleté ces magazines. Nous avons trouvé des articles qui pourraient vous intéresser. Nous le croyons.
Je l'espère.
Oui. Et vous, Serge, vous êtes allé dans...
Eh bien, moi, je suis allé dans l'itinéraire. Ensuite, je suis allé dans le Bel Âge. Et finalement, nous terminerons par de la pizza dans la revue Protégez-vous, juste avant d'aller dîner, peut-être.
C'est ça.
Ouais.
C'est cela, comme disait...
Ah, c'est très cela.
C'est cela. Bon, nos cerveaux pré-Internet, c'est dans l'actualité. Dans l'actualité, savez-vous, Serge, je pense que je l'ai dit la dernière fois, je suis sûr que vous vous en souvenez. C'est le grand dossier, c'est l'âge numérique. Est-ce qu'on peut réussir notre vie numérique qui s'en vient, là? On est déjà dedans, je pense.
Je suis très, très curieux.
Ouais.
Oui, oui.
À la semaine dernière, je vous ai parlé du texte principal de ce grand dossier de l'actualité du 1er novembre, réussir sa vie numérique. Aujourd'hui, l'éditorial de Carole Beaulieu. Sur le même sujet, et elle dit « Nos cerveaux pré-Internet ».
Ça m'intéresse.
Oui. Un tronçon de rue fermé 3 mois plutôt que 12 parce qu'un nouveau logiciel a permis de mieux planifier les travaux. Hourra! Ça serait bien à Montréal, ça. Des poubelles munies de capteurs qui indiquent leur poids et rendent plus efficace la collecte des ordures. Bravo!
Oh!
Oui. Les innovations qui améliorent nos vies sont partout. Le premier logiciel a été mis au point par l'entreprise québécoise Worksimité. Le second est déjà en usage en Barcelone. Alors, les ordures en Barcelone, la planification des travaux, Montréal. Le numérique transforme le monde, pour le meilleur souvent, pour le pire parfois. Lorsqu'on constate les atteintes à la vie privée et le bruit à l'occasion tonitruant des réseaux sociaux... Mais comme l'écrit l'étonnant romancier vancouverois Douglas Coupland dans son essai « Kitten Clone », la nostalgie du 20e siècle ne nous mènera à rien.
Ah ben non.
Non. Coupland, qui a donné au monde certains des romans les plus forts sur la répercussion d'Internet dans nos vies, sait qu'il faut se méfier de ce réseau qui ne dort jamais et parle de nous dans notre dos. Saviez-vous ça, Serge?
Ah non.
Dans « Kitten Clone », alors c'est un clone comment ça s'appelle? Pas un minet, oui, un minet. Il invite le lecteur à pénétrer dans les coulisses du leader mondial des télécoms et des réseaux à haut débit, Alcatel-Lucent, présent dans 130 pays. Le lecteur y découvre une entreprise qui est l'incarnation même de la nouvelle condition neuronale de l'Occident. Transnationale, décentralisée, insatisfaite du présent, gavée d'informations... souffrant en même temps d'un état insatiable d'aller plus vite et plus loin. Plus vite et plus loin. Au terme de sa plongée chez Alcatel-Lucent, Coupland avoue s'ennuyer de son cerveau pré-Internet, même s'il sait que nous n'avons pas d'autre option que de travailler à réussir nos vies désormais numériques. Internet, dit-il, a colonisé non seulement la planète, mais aussi les cerveaux de ses usagers en refaisant toute l'installation électrique de notre matière grise.
Intéressant.
Ce réseau a une grande capacité à homogénéiser la pensée d'une manière encore jamais vue dans l'histoire humaine. Une puissance utile si vous cherchez à mobiliser des gens pour en finir avec la misère, mais une puissance dangereuse si vous ne la maîtrisez plus. Le monde devra se protéger des excès des puissances informatiques émergentes. Facebook, par exemple. Contemple un projet du nom de Deep Face qui lui permettra, grâce à des algorithmes complexes, de rechercher et d'identifier toutes les personnes qui, un jour ou l'autre, ont publié ou vu publier une photographie d'elles-mêmes sur ce réseau. Coupland admettait récemment dans une entrevue au Globe and Mail que tout cela lui donnait la chair de poule. Attention à vos photos, les selfies. Selon cet observateur critique de la société moderne, trop de gens sont encore en plein déni du monde numérique, ne voyant dans celui-ci qu'une mode dont il suffit de ne tenir aucun compte. « Ils se trompent, dit-il. Nous devons tous en apprendre les rouages et travailler à l'influencer. Les plus optimistes voient dans la génération des 18 ans et moins les Z, comme on les appelle, la WE, en anglais WE, WE Generation, la génération tous unis. Habiles avec les réseaux sociaux, ces jeunes pourraient utiliser leur interconnexion pour agir, partager, changer le monde. On peut rêver. Chose certaine, ils seront en permanence branchés grâce à tous leurs appareils mobiles. Reste à voir ce qu'ils feront de toutes ces connexions. Rien n'est encore joué. À nous de réussir le monde numérique. Ça, c'est Carole Beaulieu. C'est l'éditorialiste de l'actualité. C'est publié dans l'édition du 1er novembre. Voici quand même un exemple d'amélioration à nos vies que peut procurer le numérique. C'est dans le même numéro de l'actualité, celui du 1er novembre. Le texte dit ceci, le texte a pour titre « Ma grand-mère et son iPad ».
Ah bon?
C'est Jonathan Trudel qui le signe, ce texte. « Ma grand-mère est probablement la dernière personne que Steve Jobs avait en tête quand il a conçu l'iPad. À 95 ans, comme beaucoup de femmes de sa génération, elle n'avait jamais été à l'aise avec la technologie. Même les quelques boutons de sa télé lui donnaient des maux de tête. Son monde à elle, c'était celui des livres. » En papier, bien sûr. Peu instruite, elle n'en était pas moins une lectrice boulimique insatiable. D'où sa profonde tristesse quand sa vue a commencé à s'embrouiller il y a quelques années. Peu à peu, ma grand-mère perdait l'une de ses dernières raisons de vivre. Sans trop nourrir d'attente, je lui ai présenté ma tablette électronique. J'ai ouvert un livre numérique, augmenté la taille des caractères, réglé la luminosité, activé le mode de nuit, lettres blanches sur fond noir... Et lui étendu l'appareil, Pierrette s'est mise à lire à voix haute les premières lignes du roman, lentement, mais avec une assurance grandissante. Puis, comme une enfant qui vient de recevoir le cadeau de ses rêves, elle m'a littéralement sauté dans les bras. « Je vais pouvoir recommencer à lire », m'a-t-elle lancé de sa voix frêle, en me serrant le cou. Et elle s'y est mise, et elle a lu toutes sortes de livres. Le dernier, Mankell, elle a lu les best-sellers de Kim Tu, par exemple, Rue Eman, de Lawrence Hill, Aminata. Et elle est décédée, malheureusement, à son 97e anniversaire, mais ça a enjolivé les derniers jours et les dernières heures de sa vie. Voilà, c'est un bon côté du monde numérique.
Ah, bah oui. Dossier L'Art public paru dans la revue L'Itinéraire. Alors, il y a trois sections. L'art, un bien public. L'art pour embellir le décor. Et tout le monde dehors, même si ça commence à pas être chaud. Bon, alors l'art pour embellir le décor, on retrouve ça à la page 21. Et c'est Mao Pac-Fouquet qui a écrit cet article. La ville de Montréal est riche de 315 œuvres d'art public. Elle se multiplie dans les espaces urbains et les édifices municipaux, notamment depuis la politique du 1% établie en 1961. Ah ah! Cette politique exige qu'1% du budget alloué aux constructions publiques soit consacré à la réalisation d'une œuvre d'art qui soit intégrée au bâtiment. Vous saviez-vous?
Oui, c'est très bien, oui, ça me le rappelle.
C'est une façon de promouvoir la création d'art visuel et d'améliorer le milieu de vie de la population. Cette importante collection est gérée depuis 1989 par le Bureau d'art public qui s'occupe de toutes les activités reliées à l'art d'État. Conserver et restaurer les œuvres existantes, développer de nouvelles collections, promouvoir la culture, organiser des concours afin de dénicher des projets, etc., etc., etc. L'équipe s'engage à faire rayonner la culture et à lancer de nouveaux artistes dans l'espace public. Depuis quelques décennies, l'art public est en mutation. Les sculptures, toujours majoritaires, sont peu à peu remplacées par de l'aménagement paysager ou de la performance. L'art public s'affirme donc de plus en plus comme lieu de rencontres pratiques, de positions, d'influences de cultures diverses, affirme-t-on en présentation du colloque sur les nouveaux enjeux de l'art public qui s'est tenu récemment à l'UQAM. Une transformation encore au cœur des discussions. L'art dans le métro. La Société des transports de Montréal occupe, elle aussi, une grande place dans ce domaine. Le réseau possède une collection d'œuvres importantes, presque tout aussi vieilles que le métro lui-même. Dès la construction du métro, il y avait une volonté de rendre toutes les stations différentes, explique Benoît Cléroux, conseiller en affaires publiques à la STM. Lors de la fondation du réseau dans les années 60, une partie du budget de construction était consacrée à l'art. Et presque 40 ans plus tard, voyant la nécessité de les entretenir, la STM s'est affiliée au Bureau d'art public et au Centre de conservation du Québec. Pour le moment, une cinquantaine de stations de métro sur 68 disposent d'une œuvre. De nouveaux projets voient le jour, tels l'inauguration de la station Champ de Mars qui dévoilera sa sculpture d'ici la fin de l'année. La STM s'est également liée à des partenaires internationaux et l'entrée de la station Square Victoria, emblématique de l'art nouveau propre au métro parisien, est issue d'un partenariat avec la Ville Lumière. Le métro ne permet cependant pas le développement d'un art plus conceptuel. Les passagers n'ont pas le temps, affirme soutient Benoît Cléroux. Le but étant d'agrémenter les trajets des voyageurs plus que de pousser à la réflexion, les œuvres se doivent d'être accessibles à tous. Si quelques performances sont parfois données à la station Berry-UQAM, la STM se concentre néanmoins sur des œuvres qui durent. On vise la pérennité des œuvres. Dans 10 ans, 15 ans ou 50 ans, le métro sera toujours là et les œuvres aussi, conclut-il. Le quartier des spectacles. Une autre forme d'art public est offerte depuis 2009 par le quartier des spectacles. Plus éphémère, les œuvres sont souvent des constructions, des jeux de lumière ou de projections interactives avec le spectateur. Contrairement aux œuvres de la STM, le public s'arrête et participe. Il est acteur de l'œuvre d'art. Si l'art public traditionnel est plus basé sur la réflexion, nous passons beaucoup par l'expérientiel et l'utilisation des nouvelles technologies, explique Pascal Lefebvre, directeur de la programmation du quartier des spectacles. L'idée reste la même. Il y a beaucoup de travailleurs dans le quartier. Nous souhaitons leur offrir une pause ou égayer leur journée via l'art. Nous voulons créer une expérience originale, développer le centre-ville et participer à la réappropriation des espaces publics par les citoyens, ajoute-t-il. Les artistes sont recrutés par appel à idées, concours et parfois commandes. Les performances font également partie du mandat du quartier. Elles se font surtout en amont et après un festival, principalement sur la rue Sainte-Catherine, il fallait quelque chose de complémentaire au spectacle. Déjà nombreux dans le quartier, conclut M. Lefebvre. Alors, l'article que je viens de vous mentionner, de vous lire, a été écrit par Mao Fouquet. Ça s'appelle « L'art pour embellir le décor » et nous retrouvons cet article dans la revue L'Itinéraire.
La ville est disparue sous les retailles de l'été, les oiseaux perdus traînent les rues, il ne reste plus rien dans le ciel en morceaux. On va se parler de la météo. Trottoirs mouillés, les animaux dépareillés s'en vont deux par deux, les yeux fermés à la fête des morts. La nuit déguise les corps, vous ne saurez jamais. jamais qui je suis.
Ornithologie 1 par Philippe B.
Très beau.
Oui. Alors, dans l'actualité, du 15 novembre, Cap sur la Chine.
Ah.
Oui, il y a deux textes, là, par Valérie Borde. Après 2 ans de négociations difficiles, le Canada a ratifié en septembre l'accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers avec la Chine, qui facilitera les échanges commerciaux entre les deux pays. L'empire du milieu, bon don, hein? L'empire du milieu est déjà, après les États-Unis, le deuxième partenaire d'affaires du Canada. En 2013, les exportations vers la Chine ont atteint 20,5 milliards de dollars, en hausse de presque 6 % par rapport à 2012, et des importations de 52,7 milliards, malgré les tensions politiques entre Pékin et Ottawa, qui se sont mutuellement accusés d'espionnage et de cyberattaques dans la dernière année, le gouvernement Harper soutient vigoureusement les sociétés canadiennes qui veulent faire des affaires en Chine. 4 nouveaux bureaux commerciaux du Canada doivent ouvrir cet automne dans ce pays, ce qui portera à une centaine le nombre de délégués qui facilitent la tâche aux entreprises. Québec aussi pousse ses sociétés vers la Chine, où la croissance économique se maintient à plus de 7,5 % par année. En 2012, les exportations québécoises vers ce pays ont atteint 2,6 milliards de dollars, soit autant que vers l'Allemagne et la France combinées, et plus que vers n'importe où ailleurs dans le monde, États-Unis exceptés. C'est 2,5 fois plus qu'en 2008. Le minerai de fer représente à lui seul le tiers du montant de ses exportations, rien d'étonnant puisque la deuxième économie mondiale a toujours un énorme besoin de ressources naturelles pour asseoir son développement. Mais l'augmentation rapide de la consommation par la classe moyenne, l'émergence d'une économie de plus en plus tournée vers les services, l'urbanisation et la lutte contre la pollution laissent entrevoir de nombreuses autres occasions d'affaires dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants où il devient de plus en plus facile de s'implanter pour des sociétés étrangères innovantes. Il n'a ainsi fallu que 10 mois à TM4, filiale d'Hydro-Québec, pour former une co-entreprise avec un partenaire chinois qui s'apprête à fabriquer des moteurs électriques pour des autobus de la ville de Pékin. On n'a même pas terminé de signer les contrats qu'on entre déjà en production, raconte Claude Dumas, président de TM4. Pour l'instant, le Québec ne compte cependant que pour 13,6 % des exportations du Canada en Chine, mais l'expansion vers l'Asie est une des grandes priorités du gouvernement. Dans la dernière année seulement, les fonctionnaires d'Export Québec ont organisé pas moins de 8 missions économiques en Chine pour aider des PME à tisser des liens sur place. Chaque année, Québec orchestre de plus une grande visite officielle pour asseoir la crédibilité des organisations qui y participent auprès des autorités chinoises et de partenaires potentiels. Après Jean Charest en 2005, 2008 et 2011, les ministres François Gendron en 2012 et Jean-François Lisée en 2013, ça a été au tour du premier ministre Philippe Couillard d'accompagner, il y a la semaine dernière, 150 représentants du milieu des affaires, de la recherche, de l'enseignement et de la culture, C'est une occasion à ne pas manquer, croit Claude Dumas, qui a participé au voyage en 2011. Pour cette année, les inscriptions sont closes, mais gageons que la prochaine mission ne tardera guère. Et continuant toujours sur la Chine, Valérie Bord écrit un second texte qu'elle appelle « Le dragon vire au vert ». En septembre 2013, le Conseil d'État, la plus haute instance du gouvernement chinois, a annoncé son plan d'action pour la prévention et le contrôle de la pollution, qui prévoit notamment 10 mesures pour réduire la pollution de l'air d'ici 2017 et une surveillance beaucoup plus serrée des entreprises et des autorités locales. En mars 2014, le premier ministre Li Keqiang a déclaré aux membres de l'Assemblée nationale populaire que la Chine était entrée en guerre contre la pollution. Le mois suivant, le pays a réformé pour la première fois depuis 1989 sa loi sur la protection de l'environnement. Le contrôle des émissions atmosphériques industrielles, c'est la priorité absolue des autorités à court terme. Et on peut le constater à la télévision quand on nous montre des images de temps à autre. Les équipements de traitement et de mesure des émissions d'oxyde de soufre et d'azote sont très demandés, mais la concurrence locale est forte. Le traitement de l'eau. Dans ce pays où l'eau du robinet n'est potable nulle part, le 12e plan, 2011-2015, prévoit la construction de 3000 usines d'assainissement des eaux et 319 milliards de dollars d'investissement pour contrôler les rejets, ainsi que traiter l'eau et les boues d'épuration. Les multinationales du traitement de l'eau comme Vivendi occupent déjà le terrain dans les mégapoles chinoises, mais le pays compte plus de 650 villes de plus de 100 000 habitants. Le traitement des sols contaminés. Quelques 100 000 installations industrielles ont fermé leurs portes de 2001 à 2009. En 2014, le gouvernement a annoncé que plus de 10 % des terres agricoles sont gravement contaminées par des pesticides et métaux lourds et a lancé un ambitieux plan d'action pour la réhabilitation des sols. Peu d'entreprises chinoises ont ce savoir-faire. En ce qui concerne la construction, on veut des bâtiments verts. Pour le gouvernement chinois, l'urbanisation est synonyme de développement et de modernisation du pays. Il prévoit que d'ici 2020, plus de 100 millions de personnes déménageront en ville. Or, les bâtiments, immeubles d'habitation et espaces commerciaux et institutionnels sont souvent mal isolés et consomment déjà le cinquième de l'énergie du pays. Alors, résultat, un grand chantier de construction écologique s'amorce avec l'instauration de normes éco-énergétiques plus strictes pour tous les nouveaux bâtiments. Diverses grandes villes comme Shanghai ont aussi lancé des plans de remise à niveau des immeubles existants. Mais les investisseurs demeurent prudents car le financement public pour l'éco-construction reste peu clair. Alors, le dragon, la Chine, vire au vert. C'est Valérie Bord qui signe ce texte dans l'actualité du 15 novembre.
Brèves, des nouvelles brèves. Bains de bois.
Ah, bains de bois?
Oui, des bains. Les promenades en forêt font baisser le niveau de cortisol, c'est l'hormone du stress dans le sang et diminue la tension artérielle. Au Japon, où cette pratique est largement répandue, des scientifiques de la Nippon Medical School ont aussi observé qu'elle augmentait chez leurs sujets la vigueur du système immunitaire, tout en diminuant l'anxiété, la dépression ou encore la colère. L'air forestier, dispersant des huiles essentielles aux propriétés calmantes et décongestionnantes, le silence, les couleurs, les odeurs, l'énergie transmise par les arbres, l'oxygène, voilà autant de raisons cet automne de pratiquer le Shirin Yoku, une branche de la sylvothérapie à la portée de tous. Une liste des parcs nature de la région montréalaise se trouve sur le site de la Ville de Montréal et sur celui de la CEPAC, le réseau des parcs et réserves fauniques de la province.
Ah, tout le monde marche, si je comprends bien.
D'or.
L'école qui fera des jaloux avec des points de suspension, se passe au Saguenay.
Ah.
Cette année, au séminaire de Chicoutimi, la plupart des semaines auront 4 jours.
Ah.
Cette école secondaire privée a réaménagé les journées pédagogiques en fonction des jours fériés, de façon à ce que les élèves soient en classe 4 jours sur 5 le plus souvent possible. Une décision qui compte de nombreux avantages, estime Grant Bergan, directeur de l'établissement. Fini les congés de plusieurs jours créés par le jumelage d'une journée pédagogique, d'une fin de semaine et d'un jour férié, qui font que l'élève décroche complètement. Cela permet aussi une plus grande flexibilité pour les activités parascolaires et pour les rencontres du personnel, dit-il. En France, après avoir instauré la semaine de 4 jours au primaire, le ministère de l'Éducation nationale a abandonné l'idée, soutenant que ce système mettait trop de pression sur les jeunes. Grant Bergan ne s'en inquiète pas. « Nous n'enlevons pas de congés, ni ne rajoutons d'heures de classe. » Nous réaménageons simplement les journées pédagogiques existantes. L'école qui fera des jaloux, 3 points de suspension.
Saint-Laurent bleu. L'eau du robinet contient pas moins de 38 000 contaminants que nos usines de traitement des eaux usées n'arrivent pas à éliminer. Heureusement, une diplômée de l'INRS, Rimet d'Agrire, a récemment trouvé un procédé qui permet de détruire jusqu'à 90 % de ces indésirables, appelés polluants émergents. La photoélectrocatalyse transforme en eau et en dioxyde de carbone les polluants, ce qui entraîne leur oxydation et leur décomposition.
Mm-hmm. Jusqu'où irons-nous? Ah. Un petit texte dans l'actualité. Oh là là! EAU, l'entreprise américaine Neve, connaît un succès retentissant. Grâce à son produit vedette, les glaçons de luxe. Plus gros que la moyenne, ces glaçons sont faits d'eau filtrée à plusieurs reprises. Le nombre exact est un secret industriel. Et sont vieillis au congélateur pendant au moins 48 heures. Leur succès tient au fait qu'ils fondent moins vite, ce qui dilue moins les cocktails qu'ils refroidissent. C'est n'importe quoi, hein? Alors, c'est un autre...
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Bon, alors, vous sentez-vous un petit peu, beaucoup amorphe? La déprime guette chacun de nous à certains moments de notre vie. Et on estime même qu'en 2020, la dépression sera la deuxième maladie la plus importante dans le monde. Tiens. Après les maladies cardiovasculaires, hein? Certes, on ne guérit pas la dépression avec des aliments miracles. Toutefois, plusieurs études confirment les effets de certains aliments sur la chimie de notre cerveau et par conséquent sur notre état d'esprit. Tour d'horizon des aliments bons pour le moral. Le cerveau, grand chef d'orchestre. Le cerveau est un organe très complexe, constitué de milliards de cellules nerveuses que l'on appelle neurones. Siège de la pensée et des réflexions, le cerveau contrôle aussi tous les systèmes du corps. À l'aide de neurotransmetteurs, peut-être des synapses, peut-être, il peut agir sur les muscles, sur les glandes et peut communiquer avec tout le reste de notre organisme. Ces neurotransmetteurs sont indispensables à notre bien-être et influencent considérablement notre humeur. Et parmi les neurotransmetteurs qui jouent sur notre humeur et notre bien-être se trouvent la sérotonine et la dopamine.
Ah ben oui.
En consommant certains nutriments ou certains aliments, on stimule la sécrétion de ces deux précieuses composantes.
La dopamine.
Oui, la dopamine, surtout quand on tombe en amour. Alors là, la dopamine, il y en a. Mais quand on n'est plus en amour, là, on manque de dopamine et c'est là qu'il faut s'en aller manger. Là.
Ah ouais, qu'est-ce qu'on mange?
Alors, on trouve principalement les glucides dans les produits céréaliers, mais aussi dans certains aliments comme les pommes de terre. Leur consommation permet d'augmenter les niveaux de sérotonine en circulation, rehaussant ainsi le moral. La sérotonine.
Séro.
Oui. Alors ça rehausse le moral quand on a la sérotonine. Il faut manger des patates. Les régimes faibles en glucides, bien que populaires, affectent le moral. On doit donc s'assurer de consommer des aliments riches en glucides à chacun des repas de la journée. En plus d'influencer notre état émotionnel, ils assureront une énergie constante pour la réussite des activités quotidiennes. Selon le Guide alimentaire canadien, les femmes de 51 ans et plus devraient consommer 6 portions de produits céréaliers par jour, alors qu'il est recommandé aux hommes de 51 ans et plus d'en consommer 7. Le magnésium, ça, très important. C'est un minéral particulièrement sollicité en période de stress.
Ah oui?
Ah oui. Il y a du chlorure de magnésium qui se vend, c'est excellent. En plus de contribuer à la relaxation musculaire, il permet le maintien d'un rythme cardiaque régulier et la régulation du taux de sucre sanguin. En période de stress, il se produit des pertes de magnésium par l'urine qui peuvent induire une carence. L'hyperémotivité et une fatigue matinale sont deux symptômes de cette carence. Le bon goût du chocolat suffit pour nous convaincre d'y succomber. Il semble par ailleurs qu'en plus de sa divine saveur, le chocolat renferme plusieurs substances qui associeraient sa consommation au sentiment de bien-être. Riche en magnésium, il contient également certaines composantes, notamment la phényléthylamine et l'anandamine, qui auraient des propriétés euphorisantes. Des études préliminaires suggèrent également que les aliments riches en flavonoïdes, antioxydants, comme le chocolat, pourraient avoir un impact positif sur les facultés intellectuelles des personnes âgées. 2 carrés de chocolat noir, riche en cacao, 70% et plus, offrent un parfait mariage de saveurs et de santé. Des gras salutaires. Contrairement aux gras saturés et trans, qui sont de mauvais gras pour la santé cardiovasculaire, les gras oméga-3 d'origine marine seraient efficaces pour contrer la dépression sans symptômes d'anxiété. Ces gras sont particulièrement consommés par les populations qui souffrent peu de dépression. Il n'en fallait pas plus pour que les chercheurs établissent une corrélation entre la consommation de poissons et le faible risque de dépression. Des essais cliniques ont confirmé ensuite le rôle des oméga-3 sur l'équilibre émotionnel. Ensuite, des nutriments bien choisis pour de petits appétits. C'est sûr qu'il y a les légumes et les fruits, hein, les légumineuses. Il y a les vitamines gagnantes B6 et B9, si vous êtes amateur de bingo. Les vitamines qui font partie du complexe B, ils sont nombreuses. 2 d'entre elles interviennent plus spécifiquement dans le processus de l'humeur. La vitamine B6 est surnommée la vitamine antidépression. D'accord? Elle participe à la production et à la synthèse de la sérotonine, l'antidépresseur naturel et de la dopamine, la molécule du plaisir. Je vais arrêter là parce que là, ça commence à être trop. Alors, merci.
Moi, je vais vous parler d'un article beaucoup moins savant que celui dont Serge vient de nous entretenir. Ça s'appelle tout simplement, c'est plutôt au ras des pâquerettes, là, le plaisir de manger sans avoir la sérotonine puis la quoi,
la sérotonine.
et le bingo. Qu'est-ce que le goût? Essayez de vous souvenir de votre dernier barbecue estival.
Ah.
Repensez à la texture croustillante et à la saveur salée des chips, au hot dog tout juste sorti du grill. Rappelez-vous le pétillement cuivré de la première goulée de bière, le frisson acidulé d'une gorgée de limonade. Ça, c'est le plaisir de manger, selon Chantal Braganza, dans la sélection du Reader's Digest du mois de novembre. Lorsque, en 1825, le célèbre gastronome français Jean-Anthelme Brillat-Savarin écrivait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », il ne pouvait pas se douter à quel point il avait raison. Par essence, le goût est la transmission de signaux par des milliers de papilles gustatives sur la langue, le palais et dans la gorge jusqu'au cerveau. Ça atteint même les neurones. Cependant, le toucher, l'ouïe, l'odorat et la vue participent tous à son action. Ces chips, par exemple, ne sont pas les mêmes sans leur bruit. Des expériences menées à l'Université d'Oxford ont démontré que plus elles étaient croustillantes à l'oreille, plus on les jugeait fraîches.
Non, oui, parce qu'une chip molle, là.
Non, ben, c'est, il fallait pas des enquêtes très poussées.
Non.
Bon, bon, enfin,
je suis bien.
Même l'éclairage peut influer sur la perception d'un vin. En 2009, une étude a révélé que les gens ont tendance à mieux apprécier leur Riesling sous une lumière bleue ou sous une lumière rouge. L'auteur ne dit pas pourquoi. Le goût d'une bière en canette peut varier d'une personne à l'autre selon son ADN, imaginez-vous. Les variations d'un gène spécifique, et celui-là il est intéressant, le TAS2R38, modifie la forme des récepteurs de la saveur amère qui détermine la perception plus ou moins intense du goût des aliments comme la bière, les brocolis et les choux de Bruxelles. Un autre facteur essentiel de notre perception du goût réside dans notre hygiène buccale. Une bouche bien nettoyée permet de mieux distinguer les saveurs. Il y a plus de 3000 ans en Inde, les médecins pensaient que nos papilles gustatives étaient capables de reconnaître ce qui était bon pour nous. La médecine ayurvédique, un ancien système de soins de santé encore utilisé de nos jours, affirme que 6 goûts de base, 6, devraient toujours figurer au menu d'un repas sain. Sucré pour les glucides, aigre pour les acides, salé pour les minéraux, amer pour les légumes, des saveurs fortes pour des comme des piments et des oignons, et des aliments astringents comme les lentilles et le thé. Au Moyen Âge, on utilisait la nourriture pour traiter les humeurs, les œufs et les pommes comme aphrodisiaques, les dattes comme stimulants et la laitue et les endives comme calmants. La médecine moderne a indiqué que ces deux approches étaient pertinentes. On sait qu'un sens du goût déficient peut avoir un effet négatif sur nos habitudes alimentaires en poussant à trop saler ou à trop sucrer, à manger moins ou en affectant l'humeur. Cette année, le Monell Chemical Senses Center de Philadelphie a découvert que des récepteurs d'hormones du stress, tout est dans tout aujourd'hui, cette émission, on a découvert que les récepteurs d'hormones du stress chez la souris détermine le degré de réaction des cellules gustatives aux aliments sucrés. Nous savions depuis longtemps que le stress et l'alimentation étaient liés. Maintenant, nous savons que nos papilles gustatives réagissent directement au stress, précise Rocky Parker, professeur à l'Université Washington, et Lee, qui a mené cette étude. Il avance ainsi que le stress diminue la capacité à détecter les saveurs sucrées. Une étude allemande de l'Université de Würzburg, cette fois sur des personnes souffrant de dépression et d'anxiété, a révélé, en 2013, que celles qui éprouvaient des émotions intenses en regardant des vidéos tristes ou gaies percevaient plus fortement les goûts amers, sucrés et acides. Les sujets ont également affirmé ne pas distinguer la quantité de matière grasse dans ce qu'ils mangeaient pendant ce temps, ce qui explique pourquoi la glace disparaît très vite lors d'une soirée télé. Comme l'attestent les souvenirs de barbecue, les émotions et la mémoire peuvent aussi influer sur notre façon de manger. Dans « À la recherche du temps perdu », Marcel Proust s'interrompt en goûtant une madeleine trempée dans du thé. Il se rend compte que la vague d'émotion provoquée par le gâteau lui rappelle les dimanches matins qu'il passait avec sa tante Léonie. Les neuroscientifiques pensent aujourd'hui que ce que Proust avait compris il y a plus de 100 ans sur les effets agréables et nostalgiques du goût fonctionne dans les deux sens. L'association réconfortante entre l'odeur et le goût du gâteau sablé à la framboise de votre grand-mère, peut créer un penchant pour les framboises et les pâtisseries. Mais prenez garde, le souvenir d'un aliment périmé, ne serait-ce qu'une seule salade aux œufs gâtés, par exemple, peut vous dégoûter d'un plat pour la vie. Saviez-vous ça, Serge?
Avez-vous
fait l'expérience?
Oui, des beignes.
Alors, c'est dans la sélection du Reader's Digest, le plaisir de manger, comment notre nourriture affecte nos humeurs. C'est signé par Chantal Braganza.
Jamais trouvé un vert plus bleu, un bleu plus vert. Aucune symphonie n'est riche d'autant d'harmonie qu'un merveilleux tonnerre qui fait l'amour avec la pluie.
Bravo le vent qui fait danser les pluies, qui fait trembler les océans. Bravo pour le soleil, la colère du volcan.
Alors, c'était Gabriel Marion Rivard et Yann Perrault avec la chorale des Impatients. C'est le dernier CD réalisé au profit de cet organisme, les Impatients, Duos Improbables. Alors, Serge?
C'est à moi?
Je crois que oui.
Eh bien, est-ce qu'on a l'eau à la bouche depuis tantôt qu'on parle de nourriture? Moi, je sais très bien qu'un de mes amis m'a parlé de pizza hier.
Oui.
Sur la rue Rosemont, et je crois que c'est là que je vais aller ce midi. Alors, moi, je vais vous parler de pizza surgelée qu'on trouve à l'épicerie. C'est Catherine Crépeau et Clémence Lamarche, en collaboration avec Marie-Josée Leblanc de l'Université de Montréal, qui s'occupe de nos docteurs en nourriture. Là. Le choix est mince. Cependant, il y a 14 sortes de pizzas qu'on pourrait choisir.
Ah oui?
Oui. Une pizza surgelée santé, est-ce que ça existe? Oui.
Oui.
Mais bon. Il y en a peu.
Bon.
Moins de 10 % des produits analysés sont recommandés. Bon. La pizza. contient en théorie tous les éléments d'un repas complet. On en a parlé tantôt de la nourriture, là, hein,
pour
ne pas être déprimé et puis que les synapses fonctionnent bien. Alors, il y a des céréales, c'est la croûte, des protéines et des produits laitiers, viande et fromage et des légumes. La plupart sont toutefois riches en sel et en gras saturés. Notre analyse porte sur les pizzas surgelées qui contiennent des légumes, excluant les formats individuels et les calzones, pizzas repliées en forme de chausson. Bon. Nous avons fixé la portion de référence à 175 grammes, une portion raisonnable si votre assiette comprend aussi des légumes, une salade ou des crudités, par exemple. Tous les produits recommandés fournissent au moins 15 grammes de protéines par portion, ce qui constitue le minimum avisé pour un repas. Étant donné que le poids des pizzas varie beaucoup, nous avons indiqué dans le tableau, pour chaque produit, à quelle fraction de la pizza correspond une portion de 175 grammes. Le sodium. Consommé en trop grande quantité, le sodium nuit à la santé du cœur et des reins. Nous recommandons uniquement les pizzas qui n'en fournissent pas plus de 600 mg par portion, environ le quart de l'apport maximal tolérable pour une journée, qui est de 2300 mg. Les gras trans et saturés, les pizzas sont souvent garnies de viande et de fromage riches en mauvais gras, saturés, trans, dommageables pour le cœur. Nos meilleurs choix n'en renferment pas plus que 5 grammes par portion, soit le quart de la quantité acceptable pour une journée. Et pour les bons choix, nous avons accepté 1 gramme de plus. Nous avons repéré sur le marché 11 pizzas contenant au moins 10 grammes de gras saturé et trans. Même les produits sans viande sont à surveiller, par exemple la pizza cuite au four à bois, aux épinards et au fromage de chèvre d'Archer Farms, renferme plus de 12 grammes de gras saturé. La preuve qu'il faut garder l'œil ouvert. Les fibres maintenant. Un repas santé fournit au moins 4 grammes de fibres. C'est le seuil minimal que nous avons fixé pour nos meilleurs choix. Étonnamment, les pizzas végétariennes ne sont pas plus riches en fibres que les autres. Une croûte multigrain ou de blé entier est susceptible d'en contenir une bonne quantité et 7 des 9 produits préparés avec une telle croûte font partie de nos recommandations. Mais restez attentif à l'ensemble du tableau des valeurs nutritives car les deux autres étaient trop salés ou trop faibles en protéines. Les recommandations maintenant. Avez-vous l'eau à la bouche? Test pizza surgelée, les recommandations. Les meilleurs choix. Bon, attention. L'emballage est de 550 grammes. Le choix du président. Menu bleu. La garniture avant tout, légumes rôtis et fromage de chèvre. Dans le sodium, il y a 418 grammes. Ensuite, le gras saturé, 4, protéines, 15, les fibres, 4, calories, 304, et la fraction de la pizza, c'est 1/3, et on arrive, on parle toujours de 175 grammes, là, les portions, c'est 2,10 $ pour 175 grammes. La connaissiez-vous, celle-là? La Turtle Island Foods, par Tofurky, à la saucisse italienne Tofurky et aux légumes grillés. Mais elle est plus chère, hein? Pour 175 grammes, alors qu'elle en contient, que l'emballage est de 400 grammes, alors pour 175 grammes, c'est 4,66 $, ça fait cher la pizza, c'est pas mal, mais quand même, hein? Ensuite, il y a la Commensal, du fameux restaurant Le Commensal.
Oui.
Pizza à croûte mince multigrain, chili à la mexicaine. L'emballage est de 320 grammes. Et dans le sodium, ben, on est dans les scores, là, le 438. Et puis, alors c'est 4,10 $. Elle est quand même assez chère, celle-là aussi. Ah, on va aller à l'irrésistible qui est moins chère. De la mieux-être. Pizza croûte mince, multigrains, épinards et légumes, 2,53 $. Ah, il y en a une moins chère ici. C'est la dernière des meilleurs choix. Mm-hmm. Et c'est les aliments bégins. Resto Pizza jardinière. L'emballage est de 880 grammes. Et elle est à 1,49 $. Ça revient à 1,49 $ pour 175 grammes. Mm-hmm. Puis, dans les bons choix, ça, c'est les meilleurs choix. Est-ce que j'ai le temps pour une autre? Non. Un de bons choix, Pizza Québec Express.
Ben.
Bon choix.
Bon choix.
Alors, dans les brèves.
Oui.
Le palmarès de l'influence. 7 Québécois, 7, se sont taillés une place sur la liste des 50 personnalités du monde des affaires les plus influentes au Canada, établie par un jury interne du magazine Canadian Business. Parmi les critères de sélection, avoir une influence qui va au-delà des limites de leur propre entreprise. Voici les Québécois qui font partie de la liste et le rang qu'ils occupent. Au 10e rang, Jean-Pierre Blais, qui est président du CRTC. 12e rang, Pierre Beaudoin, président-directeur général de Bombardier. 14e rang, Alain Bouchard, fondateur d'alimentation Couche-Tard. 19e rang, Monique Leroux, PDG du mouvement Desjardins. 32e rang, Brian Mulroney, président du conseil d'administration de Québecor. 35e rang, Marc Poulin, PDG du conglomérat Empire Limité, Sobeys, IGA, Safeway. Et au 41e rang, Michael Sabia, PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Ben moi, je continue dans la nourriture. J'aime beaucoup ça. Boisson, chasse, poison. Ça, très intéressant. Le jus de pousse de brocoli a eu des effets prodigieux pour les fermiers chinois habitant dans l'une des régions les plus polluées de la Chine. Ce breuvage a permis d'éliminer en grande quantité des composés toxiques ou cancérigènes stockés dans leur organisme. Le brocoli est une source de sulforaphane et ceci stimule la production d'enzymes pouvant expulser hors de notre corps les résidus d'émissions polluantes lorsque la plante est mâchée ou consommée sous forme de boisson. Mm-hmm. Il stimule la production d'enzymes pouvant expulser hors de notre corps les résidus d'émissions polluantes.
Ah.
La pousse de brocoli en milkshake.
Et moi, je vous donne deux courts topos maintenant à la queue-leu-leu. Design brut. Hum? Le style usé des jeans de la collection Zoo Jean au Japon n'est pas l'œuvre de jeunes créateurs branchés, mais plutôt de lions, de tigres et d'ours. Vendus à l'encan sur Internet, les pantalons en denim lacérés et mâchouillés par ces bêtes génèrent des revenus pour le zoo de la ville de Hitachi, au Japon. Autre court topo, ils tapent sur les nerfs. Pour donner de l'énergie aux journalistes et les aider à respecter leur tombée, la direction du quotidien Times à Londres a installé dans sa salle de rédaction des haut-parleurs transmettant le cliquetis de vieilles machines à écrire, un bruit amplifié à mesure que l'heure du bouclage approche. Alors ça, hein, ça contraint les journalistes à accélérer le rythme. Apparemment, je ne sais pas si ça fonctionne.
Bon, moi je vais vous parler de calmant et de démence.
Oh, tiens.
Alors, si la santé de nos finances à la retraite se prépare maintenant, il en va de même pour notre santé tout court. Une étude franco-québécoise publiée récemment dans le British Medical Journal vient confirmer que la consommation de tranquillisants sur des périodes de 3 mois et plus augmente le risque de développer la maladie d'Alzheimer après 65 ans. Les benzodiazépines prescrites pour traiter l'insomnie et l'anxiété entraîne une hypovigilance qui, avec le temps, a des effets nocifs sur le fonctionnement cognitif. Ces médicaments, rappellent les chercheurs, doivent être consommés seulement lorsqu'ils sont indispensables.
En technologie, un nouveau projet.
Ah bon?
Apparemment, ça fonctionne. La cuillère de l'espoir.
C'est beau.
Lift Labs, fabricant californien d'appareils médicaux, a mis au point une cuillère stabilisatrice destinée aux personnes aux prises avec des tremblements et pour qui manger une simple soupe tient du défi. Cet ustensile est conçu en deux parties indépendantes, la poignée, munie de puces électroniques, et le cuilleron. Les puces détectent les tremblements, les compensent et stabilisent l'autre moitié de la cuillère qui contient le liquide. Selon une étude dont les résultats ont été publiés dans la revue Neurology, ce dispositif réduirait les tremblements de 75 % par rapport à une cuillère ordinaire. Pour le moment, l'ustensile Liftware n'est vendu que par Internet au prix, bien évidemment en médecine, 300 $ pour cette cuillère fantastique.
Pour quatre personnes, ça fait cher, hein?
Oui. Pour les personnes qui luttent contre le tremblement.
Il nous reste juste 15 secondes.
Alors, le temps de vous dire merci.
Oui, d'être à l'écoute.
De la part de Serge Hamelin et de Roger Roy et aussi de Jean-Sébastien Laliberté en régie. À la prochaine, donc.
À la prochaine.